Bienvenue dans Mise au point, un podcast imaginé par Cécile Strouk pour L'Œil d'Olivier, qui met en avant des femmes et des hommes au parcours atypique, des parcours liés de près ou de loin aux arts vivants. Ensemble, nous explorons leur actualité phare du moment à travers un dialogue spontané, authentique et libre d'une demi-heure et parfois un peu plus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un homme, ça faisait longtemps, Jérémy Verrier. Bonjour, bonjour. Jérémy. Jérémy Verrier est plein de choses, mais là, s'il nous intéresse aujourd'hui, c'est parce que c'est celui qui a cofondé la Marbrerie. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce lieu qui compte dans le paysage culturel français aussi, c'est un espace assez grand de concerts essentiellement, exact. Qui se situe à Montreuil, précisément à côté de la mairie de Montreuil, ligne voilà. 9 pour les Parisiens et les Parisiennes, métro 9. Et donc ce lieu a été ouvert en 2016,
oui.
Ça fait 8 ans maintenant. Et je me suis dit qu'il était temps quand même de mettre en avant la personne qui est derrière la Marbrerie, parce qu'on voit la Marbrerie, mais on ne sait pas qui agit derrière, qui tire les ficelles de ce lieu qui rayonne de plus en plus. Donc Jérémy, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la création de la Marbrerie, donc 2016, d'où t'es venue cette idée-là ?
Avant la Marbrerie, il y a d'autres projets qui font la genèse de la Marbrerie. On est trois associés, François Pain et Catherine Bizoire, qui sont des architectes, qui sont plus âgés, qui ont 60, 65 ans aujourd'hui, et qui, eux, sont sont spécialisés dans la réhabilitation de lieux, notamment des lieux de patrimoine, lieux culturels. Ils ont fait une aile du Louvre, ils ont fait le musée du judaïsme, enfin plein de lieux comme ça, parisiens et moins parisiens. Et eux avaient le désir de non plus seulement d'être architecte, mais d'être aussi créateur et donner vie à leur lieu. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Ils ont initié un projet à Poitiers, dans un petit village, à Tercé exactement, qui s'appelait la Carrière de Normandou. Il y a un lieu magnifique qu'ils ont réhabilité. Et puis, ils ont créé un festival. Et moi, je suis arrivé dans ce cadre-là de programmation et de production de ce festival. Et très vite, il y a eu le désir de créer un lieu parisien. Et donc, c'est avec tous nos bagages de ce festival qu'on a créé la Marbrerie. Et la Marbrerie aujourd'hui, donc c'est ouvert en 2016. Quand on a lancé le projet, on avait nos idées de base, mais on ne savait pas exactement où ça allait nous emmener.
Quoi les idées initiales, justement, les idées fondatrices qui ont guidé la création de la Marbrerie
Un lieu de création, un lieu ouvert sur son territoire, un lieu de vie, dans le sens un lieu où on puisse partager pas que de la musique, mais plein d'autres choses, et un lieu qui est en accord avec son temps, dans le sens économique et de montage de projet. Donc du coup, on a créé une cantine dans ce lieu, qui est ouverte tous les midis, tous les soirs d'événements et le dimanche. On a créé donc une programmation qui est très ouverte, qui va de la musique classique, musique contemporaine, à musique expérimentale, à de la pop, à de la
c'est
musique du
éclectique,
monde,
ouais.
À du hip-hop, parce qu'on croit vraiment et on pense vraiment que les disciplines, les esthétiques artistiques se croisent et se parlent et s'inspirent.
S'étonnent
des uns des autres. C'est vrai, s'étonnent parce que moi j'ai des très bons souvenirs de grandes soirées funk, hip-hop le samedi soir. Et le dimanche matin, de très jolis concerts de musique classique. Et ce croisement d'artistes qui se croisent, et à chaque fois, ils regardent la programmation, ils sont heureux de jouer dans des lieux. Souvent, on met des gens dans les cases ou des artistes dans les cases. Ils sont heureux de jouer dans des lieux qui proposent autre chose que seulement leur esthétique. Et ils sont heureux de s'étonner ensemble. Des événements culturels et des événements privés. On travaille avec les entreprises, on fait de la privatisation.
J'ai vu qu'Ubisoft était venu.
Ubisoft, parce qu'ils sont à la porte de Montreuil, ils ne sont pas loin. Ce qui nous permet de créer une certaine autonomie économique et ne pas être dépendant de subventions. On en a quelques-unes grâce au Centre National de la Musique pour des choses très précises, de l'investissement, du développement de projets, mais on n'a pas de subvention de fonctionnement. Et donc, c'était extrêmement important d'intégrer ça aujourd'hui parce que la réalité, c'est que les fonds publics ne sont de moins en moins présents et que du coup, il fallait trouver cette autonomie-là.
Et après, est-ce qu'on peut dire que la marbrerie est un... tu sais, il y a ce mot qui revient souvent, un tiers-lieu. Est-ce que ça a cette nature-là ou cette ambition-là?
Et oui, en fait, un peu. Nous, moi, je n'avais jamais eu cette notion exactement. Je viens du concert, du monde du spectacle et du spectacle vivant. Donc, la notion de tiers-lieu, moi, au début, elle m'a pas, c'est pas quelque chose que je suis allé chercher. Mais en fait, naturellement, comme il y a une cantine, comme c'est un lieu où... on programme à 90% du concert, mais ça peut nous arriver de programmer du podcast ou de programmer, de faire venir une asso un dimanche pour un échange. Il y a de la sophrologie. Enfin, voilà, on est ouvert à des sortes de disciplines qui sont plus que juste une salle de concert. Et donc, du coup, on est un tiers-lieu malgré nous. Et c'est, en fait, c'est ce qu'on aime faire. On est ouvert sur les gens et on aime le rapport à l'autre et la conversation. Quoi.
Mmh. On parlait de la création de la marbrerie et cette association triangulaire que tu as avec François et Catherine.
Exact,
c'est
oui.
Ça. Donc, c'est une association intergénérationnelle puisque toi, tu es un tout petit peu plus jeune. Oui. Cette dynamique-là est importante aussi dans la marbrerie. Est-ce que cette rencontre déjà de milieux différents, architectes et programmation, 30 ans et plutôt 60 ans. Est-ce que ça, tu sens hein, que dans l'association, ça nourrit quelque chose aussi?
C'est extrêmement complémentaire. En fait, on est à des endroits de nos vies complètement différentes. On a des vies complètement différentes. Ils sont architectes, donc il y a quand même dans le métier d'architecte une notion de construction, une notion de longévité sur le temps, voilà, qui est quasiment un peu l'antithèse d'un spectacle, où on est sur une notion d'événementiel, sur du temps très court, éphémère, sur de l'instant présent. Mais il y a une vraie curiosité, encore une fois, une vraie rencontre à deux endroits. Il y a une vraie complémentarité. Sans eux, j'aurais jamais pu monter ces projets. Et je le dis avec gentillesse, mais sans moi, on serait pas arrivé à monter exactement le même projet. Parce qu'on a tous les trois la passion et l'envie, le désir, la persévérance. Et puis, on est des bosseurs, c'est une grande exigence, c'est pas toujours facile. Voilà. Mais il y a une grande compréhension, il y a une grande volonté d'avancer ensemble et d'être complémentaires. On s'est souvent aidé à des endroits où l'un et l'autre...
Vous étiez en difficulté.
Exactement. Ou... Voilà.
Et alors, tu disais que vous aviez l'ambition initiale d'ouvrir un lieu à Paris. Finalement, Paris est devenu Montreuil. Donc, pourquoi le choix de Montreuil et pourquoi le choix de ce lieu-là qui était donc une ancienne marbrerie? Et c'est pour ça que vous l'avez appelé comme ça, je crois. Comment vous en êtes venu à cheminer vers ce lieu-là?
C'est grâce au métier d'architecte que François et Catherine visitent régulièrement des lieux pour les réaménager via des institutions publiques, via des promoteurs. Le choix de Montreuil s'est fait un peu naturellement. Enfin, ils ont découvert ce lieu sur lequel ils ont flashé. Et le choix de Montreuil s'est fait naturellement parce qu'eux y habitaient depuis déjà une quinzaine d'années. Et donc, du coup, c'est comme un coup de foudre. Et du coup, ils sont tombés amoureux de ce lieu. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Ça fait d'autant plus sens que c'est relié aussi à des questions. On a acheté le lieu en 2010. En 2010.
Il y a eu 6 ans de travaux.
Non, il y a eu. On a mis 5 ans à trouver les fonds et il y a eu 1 an de travaux. Et en 2010, Montreuil n'était pas ce que Montreuil est aujourd'hui. Ouais. Et donc, du coup, c'était encore possible d'acheter des lieux, entre guillemets, pas trop cher, mais par rapport au foncier, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui.
Ça appartenait à qui, cette marbrerie, d'ailleurs?
C'était une entreprise, une ancienne marbrerie. La dernière activité, c'était une ancienne marbrerie, donc ça devait être une famille. C'est un lieu qui est passé par plein de destinations différentes. C'était un lieu de stockage de peinture, un lieu de stockage de bière. Et puis, ça a été sûrement un corps de ferme, début du siècle, où on stockait de la nourriture avec les pêchers. J'imagine que c'était comme ça. Et donc, en fait, le lien avec le territoire, ce choix de lieu s'est fait parce que François et Catherine étaient sur le habitant de Montreuil et puis que le foncier était accessible encore.
Et tu parles de 1 an de travaux, donc à quoi ressemblait cette marbrerie et comment vous avez pensé les travaux par rapport à la salle de concert? Donc j'imagine qu'il y a un souci d'acoustique très intense. Donc comment tu penses les travaux dans un lieu qui n'est pas pas du tout dédiée à la base pour le concert.
Ouais. Alors ben, ça, c'est la force de notre association. C'est-à-dire qu'eux ont la, la notion de, d'architecte, donc de ce qu'on appelle d'ERP, d'établissement recevant du public, et donc de toutes ces contraintes-là pour que ça soit dans un...
Sécurité environnementale...
PMR handicapé, sécurité au feu, enfin voilà, des notions qui sont extrêmement administratives et très compliquées à gérer.
Exigeantes.
Et exigeantes, ouais, très exigeantes. Et donc du coup, le lieu en soi n'a pas énormément bougé. On a rajouté un balcon, on a rajouté évidemment des portes de secours, des, voilà. Mais la scénographie du lieu, naturellement, elle amenait quelque chose. Et puis, en termes d'acoustique, c'était un, ben, comme beaucoup de lieux qu'on lance, il y avait un débat de se dire, ok, soit on fait des travaux à minima, et on joue comme ça, puis on voit ce que ça donne. Soit on se dit, ok, on part pour des gros travaux, et on essaye de faire vraiment les choses bien acoustiquement, et on pourra permettre de vraiment jouer facilement. Et donc du coup, on a fait ce choix-là. On est bien isolé acoustiquement, parce que la problématique d'un lieu de musique amplifiée l'isolation, en pleine ville, c'est l'isolation acoustique. Donc on a fait ce qu'on appelle, les architectes connaissent, la double l'enveloppe, la boîte dans la boîte. Donc il y a... 70 tonnes de béton sur la toiture, il y a une double paroi en amont, une double paroi en scène. Donc du coup, on a un côté un peu bunker qui fait que le son passe très peu, entre guillemets.
Vous n'avez jamais eu de problème avec votre voisinage, typiquement, pour les soirées
qui
se terminent un peu tardivement?
La problématique du son, très peu, parce qu'on on fait attention, il y a quelques fuites, mais on fait extrêmement attention à nos voisins, parce qu'on veut vraiment que ça se passe bien. Et la vraie problématique pour le voisinage, c'est les sorties de salle. C'est-à-dire qu'évidemment, on est dans une rue qui est de moins en moins, mais qui est une rue résidentielle.
La rue Alexis,
Alexis Lepère, exactement, au 21. Quand on met 500, 600 personnes, la jauge de la marbrerie, c'est 650 personnes. Dans la rue, à 4-5 heures du matin, bah, ça fait du bruit. Voilà. Alors, c'est pas tous les soirs, c'est un soir par semaine, mais c'est quelque chose qu'on a appris à gérer petit à petit. Et puis, c'est une grande conversation qu'on a avec nos équipes de sécu, avec le voisinage, pour essayer que ça se passe le mieux possible, quoi. Mais c'est aussi une problématique d'urbanisation, c'est-à-dire est-ce qu'on a envie d'avoir des lieux culturels
en pleine ville.
C'est une vraie question de savoir comment on peut le faire.
Donc la marbrerie créée en 2016, aujourd'hui on est en 2024, ça fait 8 ans d'existence, donc bravo.
Déjà, merci.
Hein, c'est faut tenir, j'imagine, le défi. Donc comment la marbrerie a évolué? Tu parlais du paysage montreuillois qui lui-même évolue, donc d'un point de vue immobilier c'est certain, il y a plein de constructions, ça coûte de plus en plus cher, mais c'est mieux desservi, etc. Donc comment la marbrerie, elle s'insère là-dedans et comment ça résonne avec la ville et comment tu as fait évoluer ton lieu aussi au fil de ces 8 ans?
Alors, on ouvre en 2016 un peu comme des pirates et un peu comme des amateurs, mais avec le bon côté de l'amateurisme. Hein. En tout cas, avec un grand désir de proposer des choses. Les gens sont extrêmement étonnés. C'est-à-dire que Montreuil a ce complexe-là. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai senti, c'est qu'il y a certains habitants, à une époque, quand on a ouvert, ils avaient vraiment ce complexe d'être à Montreuil, dans le 9-3, de ne pas être parisien. Donc, du coup, de revendiquer leur identité. Voilà. Et donc, du coup, ils sont étonnés. Au début, les gens viennent nous voir en disant « Ah, c'est super, la mairie a ouvert un nouveau lieu. » On fait « Non, la mairie n'a rien ouvert, c'est nous qui avons... »
Tout le monde pensait que c'était la mairie, oui, bien sûr. C'est marrant. Hein,
ouais, parce que c'est un lieu qui est grand, ouais. 500, 600 personnes, c'est pas anodin. Et ils disent « Non, c'est un lieu privé qui est ouvert sur la ville. » Et voilà. Et donc, naturellement, les projets viennent à nous. On va les chercher quand même un peu. Et puis, la première année, j'ai envie de dire, c'est une saison bêta. C'est-à-dire qu'on teste tout, on met pas par pas, qu'est-ce qui fonctionne, les concerts, on apprend à faire des concerts. Pas pareil de faire un festival 3-4 jours, 5 ou 3-4 semaines par an, que de faire une programmation quasiment tous les soirs, il y a un événement. Et donc du coup, la première saison, c'est vraiment une saison d'apprentissage. Voilà. Et puis on vérifie nos fondamentaux petit à petit dès la deuxième saison, les concerts, les soirées, que j'appellerais plutôt club un peu plus tard la nuit. La cantine qui nous tient à cœur, et on voit que ça fonctionne, on voit que les gens y sont sensibles, que ça apporte une communication sur le territoire qui est importante, et la privatisation sur laquelle on n'a pas l'habitude de le faire, donc du coup on se fait aider, on se fait conseiller, on petit à petit, mais on voit que les fondamentaux sont intéressants et qui fonctionnent. Petit à petit on passe les étapes, on se structure, on trouve des collaborateurs, qui sont de plus en plus qualifiés. On sait de plus en plus ce qu'on veut faire. On reçoit de plus en plus de monde. On est en capacité d'avoir de plus en plus d'événements. La force, c'est qu'on a fait les choses petit à petit. Vraiment, 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 on a fait les choses petit à petit et on a passé des étapes.
En validant un peu chaque étape.
Exactement.
Pour vous assurer que ça marchait et pour aller dans la bonne direction. Donc c'est une gestion de pirate, mais prudente.
Une gestion prudente de pirate, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est trois associés, on a une petite expérience, mais on n'a pas de grande expérience, on n'a pas de grand groupe derrière nous, on n'a pas les capacités de dire, ok, ben on met beaucoup sur la table pour pouvoir tout de suite proposer des grands événements, mais on va valide notre savoir-faire avec au fur et à mesure des choses et au fur et à mesure de notre désir et au fur et à mesure de notre capacité à accueillir.
Et est-ce que tu parlais d'identité montreuilloise pour les habitants et les habitantes, mais est-ce que tu dirais aujourd'hui, au bout de 8 ans, que la marbrerie a une véritable identité ou que c'est encore une identité mouvante ?
Alors, je dirais les deux, en fait. La marbrerie a une vraie identité. C'est devenu, et c'est une vraie fierté, une vraie référence à Montreuil, mais pas que, à Paris, et puis même un peu plus en France. Mais les gens du territoire ici sont attachés, on a beaucoup de demandes de groupes, enfin, il y a une vraie...
Les demandes viennent à vous.
Complètement, oui, ouais. Oui, les demandes viennent à nous. Et ça, c'est extrêmement valorisant. Et puis même dans... Moi, j'aime bien, de temps en temps, ça m'arrive rarement, mais quand je prends le métro et que j'entends parler de la marbrerie, d'avoir des retours comme ça, d'indirect, sans que les gens me connaissent.
T'identifient, ouais, mais tu es dans l'ombre.
Dans l'ombre, exactement. Et ça, c'est assez génial, et d'avoir leur retour là-dessus. Et ça, les gens, on voit que c'est un lieu qui est identifié, qui fait vraiment partie du territoire et qui est... Et que les gens apprécient. Globalement, ils apprécient vraiment. Et donc, du coup, c'est hyper valorisant.
Donc, avec ce rayonnement qui grandit de la marbrerie, est-ce que tu as déjà eu des propositions de partenariat avec d'autres salles de concerts qui comptent dans le paysage parisien, notamment, ou proche banlieue ? Est-ce qu'il y a eu des partenariats comme ça pour des festivals itinérants ? J'ai vu que... Il y avait la Seine-Saint-Denis,
banlieue bleue. On a, régulièrement maintenant, on a, alors déjà naturellement, on travaille avec les gens du territoire, donc on a des collectifs, les collectifs ça va, ça vient, ça naît, ça meurt, enfin voilà, c'est qui viennent nous voir. On a des institutions, on a le théâtre de Montreuil qui vient travailler avec nous régulièrement et on fait des choses à des endroits différents et c'est extrêmement agréable de travailler avec eux. On a travaillé avec l'Instant Donné, qui est un ensemble de musique contemporaine, avec les Instants Chavirés sur les musiques expérimentales. Et on a plein de partenaires réguliers comme ça qui reviennent. On a Banlieue Bleue qui revient chaque année. Et même dans la privatisation, parce qu'en fait, la plus-value, la chose extraordinaire à Montreuil, c'est qu'on est sur un territoire où il y a beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'entrepreneurs dans l'économie sociale et solidaire. Par exemple, on a maintenant Action contre la faim qui est là, c'est sur le territoire depuis pas très longtemps, qui revient régulièrement à la marbrerie. Voilà, il y a plein de gens comme ça qui s'identifient au lieu et qui, à la fois artistiquement et à la fois pour travailler, viennent chez nous. En fait, le fait de ne pas être subventionné avec la mairie, ça amène une relation plus directe et d'aide mutuelle. Du coup, la mairie nous sollicite régulièrement, on nous envoie des projets et puis nous-mêmes, on les sollicite sur du conseil ou sur quand on a besoin de petits coups de main. Mais du coup, il y a une relation comme ça très facile. On a dans nos cuisines des jeunes qui viennent de l'ASE et qui, du coup, on a eu en apprenti. Ils ont appris avec nous, mais on a appris avec eux énormément aussi parce qu'au début, quand on lance une cantine, on a les bases dans sa tête, mais on ne sait pas exactement ce que ça va être. Et donc, du coup, ils ont été apprentis, mais maintenant ils sont salariés et ils sont, ça fait extrêmement plaisir à voir parce qu'ils sont d'une autonomie et d'une intelligence. Ils nous ont dépassé sur la faisabilité de la cantine. Et donc du coup, on a cet œil de pas être un projet cynique et de gagner notre vie et d'aller vers l'avant. Et donc on est fondamentalement des entrepreneurs. Donc il y a une question économique qui est extrêmement présente et importante, mais pas à n'importe quel prix, et d'avoir en tête toutes ces choses importante sur le territoire, sur le rapport à l'autre, quoi, qui nous paraît essentiel.
Sur la mixité aussi.
Sur la mixité, bien sûr. On a une équipe qui est, je sais pas comment on dit, multicolore et multigenre. Enfin voilà, oui, c'est important. C'est des problématiques qui reviennent.
Et c'est en ça aussi que vous êtes très contemporain et que vous vous inscrivez dans les problématiques contemporaines. C'est-à-dire que les questions de genre, les questions d'immigration, etc., vous les prenez à bras le corps avec beaucoup d'ouverture et d'action aussi, d'aide. D'aide pas directe, mais indirecte, qui permet de créer une espèce de cohérence, comme ça, une fluidité peut-être.
Cette liberté, le fait d'être indépendant, c'est ce qui nous permet cette liberté. La contrepartie, c'est qu'on est fragile économiquement, mais la vraie plus-value, et pourquoi on fait ce métier, c'est qu'on a cette grande liberté. C'est-à-dire qu'on accueille des collectifs qui vont être extrêmement militants à l'endroit du genre. On accueille le festival Ciné-Palestine, qui, lui, a un regard extrêmement, évidemment, sur les problématiques de guerre, et d'avoir cette possibilité-là. Et on a besoin de ces lieux-là, qui puissent à un moment donné, on puisse raconter quelque chose et raconter quelque chose chacun à son endroit. Alors, on essaye de trouver une certaine cohérence. On essaye que tous les points de vue, sauf point de vue extrême évidemment, mais que tous les points de vue puissent être cohabitent et puissent être entendus. Et en fait, il y a les réseaux sociaux, mais pour se voir en vrai, pour se parler, pour être en échange, pour être là comme toi et moi, qu'on se regarde, il n'y a pas tant de lieux que ça. La réalité, elle est plus compliquée des lieux qui ont la capacité, la souplesse et le désir d'être ouvert aux autres et de discuter, quoi.
Donc en fait, la Marbrerie, c'est un lieu de rencontre.
Oui.
Presque avant tout.
Mais moi, c'est ce qui me passionne, hein, réellement. Ouais. C'est-à-dire que je fais ce métier pour que les gens se rencontrent, pour être à l'endroit du où l'artiste rencontre son public, où le public rencontre une équipe qui propose une programmation, et d'être ce carrefour, d'être ce moment de croisement, et de s'effacer d'ailleurs derrière, et de pouvoir proposer un moment de rencontre, et un moment où on se regarde, et un moment où on apprend à découvrir l'autre, et à comprendre qu'on, tout simplement, on est différent, et qu'on est d'accord, pas d'accord, mais on vit ensemble, quoi, vraiment.
Et d'accessibilité, parce que tu parlais de l'artiste qui rencontre son public. Clairement, sur la scène de la Marbrerie, il y a une rencontre directe qui se fait. L'artiste voit son public, le public voit. Il y a vraiment une proximité. L'accessibilité se joue aussi dans la proximité que crée le lieu.
Complètement. Il y a le lieu avec une scène qui est quasiment 180 et donc du coup qui permet un rapport très proche au public. Il y a généralement, pas tout le temps, mais très fortement, on essaie de pratiquer des prix pas chers et donc du coup une accessibilité, voire même de la gratuité tout simplement. Et en fait, nous, on n'a pas la force d'un opéra ou d'un théâtre public, on n'a pas d'action culturelle. Et donc nous, notre grand, ce qu'on a théorisé et ce qu'on essaie de mettre en place, c'est cette ouverture, c'est-à-dire de se dire, on n'a pas de budget pour aller faire des actions en classe ou de faire des actions sur des publics défavorisés. Par contre, nous, notre grande capacité, c'est de pouvoir inviter comme on veut, de pouvoir proposer des projets de temps en temps libres, de pouvoir venir manger, tout simplement
accueillir,
quoi. Et donc, c'est notre force. Et souvent, quand on fait des études de production, de spectacle, de médiation culturelle, la problématique, c'est comment est-ce qu'on fait passer les gens la première fois à aller à un concert. Nous, ça nous paraît naturel. Il y a des milliers, des millions de gens où c'est pas naturel d'aller au concert. Il faut pousser la porte d'un opéra, pousser la porte d'un théâtre, sentir légitime.
Parce qu'il y a des barrages culturels quand même, socioculturels, et notamment, oui, dans les salles d'opéra, même dans les salles de théâtre.
Et même publique, dans les salles de concert. Je veux dire, même pour une... Même pour aller voir un concert rock, pour aller voir il y a plein de gens qui se sentent pas à leur endroit.
Sûr, ouais.
Et donc, du coup, cette diversité de programmation permet tout d'un coup, je vais voir un concert de musique classique. Ah, mais en fait, il y a ça aussi. Peut-être que ça peut m'intéresser. Et d'essayer d'avoir cette ouverture. Moi, c'est ce qui me semble important aujourd'hui.
Un mot sur la programmation, puisque c'est ta spécialité depuis longtemps et en particulier à la Marbrerie. Donc j'ai lu une phrase superbe sur ton site. Nous aimons que les formes, les provenances, les époques se croisent et s'étonnent mutuellement. Donc on a parlé d'étonnement tout à l'heure. Est-ce que toi-même tu t'étonnes quand tu choisis tes artistes et comment tu... Parce que maintenant les artistes viennent à toi parce qu'il y a une notoriété de la Marbrerie, mais est-ce que tu continues de défricher
Oui, complètement. franchement. Parce qu'on a maintenant, on a énormément de gens qui viennent nous voir. On est toujours entre guillemets proactif. Donc, du coup, on sollicite quand même des productions, des collectifs et des gens. Mais on a la chance d'être un peu plus reconnus. Donc, du coup, on a de plus en plus de belles propositions. Et il faut toujours s'étonner, toujours rester ouvert et d'écouter. Et ce qui est génial, moi, j'ai abandonné l'idée de tout connaître, d'avoir une culture encyclopédique.
Exhaustive.
Et ça, c'était d'une autre époque. Et puis, il y a tellement de propositions, il y a tellement de choses sur les réseaux. Et d'admettre à un moment donné que je ne suis pas un spécialiste, mais je suis un généraliste. Mais par contre, un généraliste, entre guillemets, aguerri et généreux dans ce qu'il a envie de découvrir. Et donc, du coup, j'essaye avec ma petite équipe de rester ouvert et de regarder chaque proposition et de voir quel est son parcours, quel est son sens, et de voir comment on peut l'accueillir ou pas, parce qu'à un moment donné, il faut quand même faire un choix à la marbrerie. Donc oui, c'est extrêmement important de rester curieux et ouvert, quoi.
Et est-ce que, en tant qu'agent, d'une certaine manière, tu vas dans des festivals toi-même spontanément, sur ton temps libre, tu vas à la rencontre d'artistes qui peuvent t'étonner ?
Pour être honnête, pas assez. C'est une vraie frustration. Le fait que la marbrerie, paradoxalement, c'est encore un lieu qui est jeune et qui, du coup, a besoin que je sois encore extrêmement présent.
Très présent, ouais.
Et je m'autorise de temps en temps, mais je devrais être plus à la découverte dans certains festivals, dans certaines réunions professionnelles,
ou résidence,
ou aller me déplacer plus. Ça, c'est une vraie frustration, mais que je compte bien dans les années à venir de pouvoir remettre en place et aller découvrir. Et puis après, il y a la vie perso qui fait qu'aussi il y a du monde à la maison.
De plus en plus. Dernière question sur peut-être la prochaine actu de la marbrerie. Donc j'ai ouï dire qu'il y allait avoir une extension de la marbrerie, je ne sais pas comment tu l'appelles, en tout cas un autre point d'ancrage à Montreuil aussi. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il nous reste 3 minutes pour développer ce
point-là.
Exactement.
On a la chance, du coup, comme on travaille en intelligence avec la mairie, ils nous ont interrogés sur un lieu dont ils ne savaient pas quoi faire, qui sont les anciens cinémas du Méliès, situé à Croix de Chavaux, à Montreuil, donc au métro Croix de Chavaux, vraiment presque dans la sortie du métro. Et donc, ils nous ont dit, vous avez cette expérience, vous avez cette expertise sur la marbrerie, qu'est-ce que vous en faites? Et on leur a proposé un projet. Et donc, du coup, là, on travaille sur une nouvelle salle qui sera plus salle de concert.
Club
aussi. Plus assumé, il n'y aura pas de cantine, pas de restauration. Il y aura un sous-sol avec 3 salles, et dont une partie qui sera louée au conservatoire pour de la danse. Donc du coup, d'allier quand même ce côté toujours d'intérêt général, d'intérêt public, et de toujours pouvoir conjuguer les différentes activités.
Pluridisciplinaire,
sûrement un volet un peu plus sur les musiques urbaines, sur la danse urbaine, enfin voilà. Et donc du coup, on travaille sur ce projet, on devrait... J'espère, normalement, c'est toujours compliqué de ce projet, c'est des projets à long terme, mais j'espère au printemps, d'ici un an et demi, on devrait pouvoir ouvrir le lieu.
Et c'est un lieu qui est grand, qui est aussi grand que la marbrerie?
C'est la même jauge, ouais, complètement différent, avec une grande salle de concert classique, entre guillemets, type New Morning ou Maroquinerie, et un sous-sol, et ça fera une jauge de 500-600 personnes. Mmh. Donc ça va être encore un nouveau lieu culturel, et on va en partir vers une nouvelle aventure, redécouvrir, continuer à découvrir et développer, et de pouvoir jouer avec deux lieux comme une petite fratrie.
Parce que là aussi, ça peut résonner.
Exactement.
Là aussi, tu peux...
De pouvoir peut-être même créer un festival entre les deux lieux, d'imaginer en tout cas naturellement des allers-retours entre les deux lieux, quoi.
Ça s'appellera aussi la marbrerie ?
Non, a priori, je suis parti sur la BO pour la bande-annonce, parce que du coup, c'est la bande originale, pardon, parce que c'est en lien avec l'image du Méliès, qui est un lieu quand même de cinéma hyper important sur Montreuil, et puis ce lien au son, à confirmer, mais a priori ça serait plutôt la marbrerie et la BO. Voilà.
Est-ce que tu as une actualité pour la marbrerie à annoncer là pour les semaines ou les mois
à venir?
Oui,
sur les prochains temps, il y a deux actualités qui m'intéressent particulièrement. D'abord, dire que la marbrerie, c'est un lieu qui est ouvert l'été Et donc, du coup, on a travaillé une petite programmation pour cet été spécifiquement, que la terrasse sera ouverte. On aura des matchs d'impro et on crée un grand festival. C'est une première, un grand festival de salsa. On va profiter, entre guillemets, qu'il y a les JO et qu'il y a beaucoup de lieux qui ferment, des lieux culturels qui ferment, et notamment les quais. Et donc, du coup, on a décidé de faire un festival de salsa qui marche bien à la Marbrerie. Donc, je vous invite à venir. Je crois que c'est la troisième semaine de juillet. Ça s'appelle le festival Salsa et Spécial avec un producteur qui vient régulièrement à la Marbrerie. On en est très fiers. C'est une grande première, venez participer à cette première. Et puis, manière plus rapide, on a un joli concert de musique Touareg, de rock Touareg qui s'appelle Tammy Crest. C'est le mardi 21 mai. Voilà, je vous invite, ça va être un très très beau concert.
Merci Jérémy.
Merci à toi,
pour ce temps.
Cécile.
Bravo pour tout ce que vous mettez en place à la Marbrerie. Ça compte, c'est important.
Merci.
C'est agissant et à bientôt pour une nouvelle mise au point.
À bientôt.